9 randonneurs secourus au parc provincial de la Rivière Bleue alors qu'ils se sont retrouvés isolés par la montée des eaux. Le gouvernement communique sur l'épisode pluvieux du week-end dernier. L'ouverture ce matin du Salon des collectionneurs. Le public, déjà nombreux, a 3 jours pour visiter les 34 stands et leurs trésors. En métropole, inquiétude près de Lesches, Cap-Ferré en Gironde. L'incendie qui a déjà détruit plus de 3000 hectares est hors de contrôle. Les agriculteurs inquiets de la sécheresse et des restrictions d'eau. Certains d'entre eux appellent à la désobéissance civile pour sauver les cultures. Le Tour de France cycliste. Cette nuit, l'équatorien Richard Carapaz a remporté la première des 3 étapes dans les Alpes. Pas de changement au général. Et puis le compte à rebours a commencé pour les athlètes calédoniens. Les Jeux du Pacifique à Tahiti, c'est désormais dans 1 an. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal et avant de développer tous ces titres, signalons cet accident qui s'est produit en toute fin de matinée à l'entrée de Nouméa. 2 véhicules se sont percutés à hauteur du rond-point de Magéco. Pas de blessés, un simple accident matériel mais qui provoque de forts ralentissements dans le sens nord-sud. Soyez prudents si vous arrivez à proximité de cet accident, les véhicules de secours sont toujours en intervention. Un mot sur les 2 rendez-vous du vendredi sera du rythme bleu. Le premier d'entre eux dès la fin de ce journal. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Ce sera le magazine Transparence dans lequel vous recevrez cette semaine le haut-commissaire.
Oui, le haut-commissaire Jacques Billon qui sera l'invité de Transparence. Il est très peu présent dans les médias. Ce sera l'occasion de faire le point, passer la période électorale. Nous l'interrogerons notamment sur la sécurité publique et sur la lutte contre la délinquance, mais aussi sur l'aide de l'État au travers de la vague 2 du plan de relance qui a été annoncé la semaine dernière. Comme vous le disiez, on se retrouve juste après votre journal. D'ici une demi-heure en compagnie du haut-commissaire Jacques Billon.
Et puis un mot sur le sommaire du Club Politique qui vous retrouverez à 16h45.
Au menu ce soir du Club Politique, la préparation de la formation du gouvernement avec la décision de fixer à 11 le nombre des membres. Nous reviendrons aussi sur le rapport 2025 de l'IOM qui relève le climat économique encore fortement dégradé de la Nouvelle-Calédonie. L'occasion également d'évoquer les chiffres de l'emploi rendus publics par l'ISEE. Et puis nous parlerons bien sûr de la vague 2 du plan de relance et dans un tout autre domaine de l'ingérence de l'Azerbaïdjan. Rendez-vous à 16h45 cet après-midi pour ce Club Politique.
Cette affaire de l'ingérence de l'Azerbaïdjan continue en effet de faire du bruit. Il y a quelques jours, le député Nicolas Metzdorf et ses collègues autonomistes de Polynésie française ont écrit au chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, pour réclamer une réponse ferme de la France aux déclarations d'Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan. Lors d'une conférence de presse tenue le 13 juillet dernier, l'homme fort de Bakou avait une nouvelle fois affirmé son soutien à l'indépendance de territoires ultramarins dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qu'il a qualifié de colonie. Ces députés du Pacifique ont enfoncé le clou avec un point de presse à l'Assemblée nationale pour alerter de nouveau le gouvernement sur les ingérences de l'Azerbaïdjan. Et Nicolas Metzdorf s'est étonné du silence de l'État.
Nous, ce qu'on voudrait dire à Jean-Noël Barrot et au Premier ministre Sébastien Lecornu, c'est que on les entend souvent, et à juste titre d'ailleurs, défendre la souveraineté des nations alliées sur plusieurs territoires. On défend la souveraineté de l'Ukraine sur le Donbass, on défend la souveraineté du Danemark sur le Groenland, on défend récemment la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Nous, on aimerait bien qu'on défende aussi la souveraineté française chez nous.
Un point de presse tenu en compagnie de la députée de Polynésie, Nicole Sanquer, à laquelle il s'est associé le député polynésien Moerani Frebo. Pour l'instant, seul le président des LR, Bruno Retailleau, s'est exprimé sur le sujet pour condamner les très graves ingérences de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. L'État doit-il, selon vous, condamner officiellement et fermement les ingérences de l'Azerbaïdjan dans les territoires d'outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez qu'il doit les condamner, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 76% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le dispositif prêt d'honneur lancé par la province sud peut contribuer efficacement à la relance économique. Ils sont 24% à penser que ce ne sera pas le cas. Le gouvernement communique sur l'épisode pluvieux du week-end dernier. Il salue notamment le professionnalisme, la réactivité et l'engagement de l'ensemble des personnels mobilisés, notamment de la DSCGR, Nicolas Legrand.
Oui, plusieurs interventions ont été menées lors de ces intempéries, notamment 9 randonneurs qui ont été secourus au parc provincial de la Rivière Bleue, alors qu'ils se sont retrouvés isolés par la montée des eaux. Ils ont ensuite été récupérés et évacués par les équipes spécialisées en sauvetage en eau vive. Au Mont-d'Or également, les équipes sont intervenues pour porter assistance un conducteur piégé par la montée des eaux. Il avait quitté sa voiture et a pu être récupéré sain et sauf. En revanche, rappelons ce drame à tout haut, un homme a perdu la vie alors que le véhicule dans lequel il était passager a tenté de traverser un radier. Le gouvernement profite de ce communiqué pour rappeler les consignes de sécurité en cas d'intempérie. Ne jamais s'engager à pied ou en voiture sur une route, un radier ou un pont submergé, même si la hauteur d'eau paraît faible. Respecter scrupuleusement les consignes et les fermetures de route. Reporter toute activité en pleine nature en cas d'alerte météorologique. Et enfin, en cas de danger, rejoindre un point haut et éviter les berges des rivières ou encore des cours d'eau. Des intempéries qui ont eu des conséquences également sur le monde rural. Après ce fort épisode pluvieux, une réunion s'est tenue à Bouraille. La Chambre d'agriculture et de la pêche, les syndicats professionnels, la DAVAR et la Province Sud se sont réunis pour évoquer les politiques publiques en matière agricole, mais avant tout pour apporter un soutien aux agriculteurs, nous a dit Lévaillerois, le président de la commission agriculture à la Province Sud.
C'est au chevet des agriculteurs, on estime les dégâts à près de 40 à 50% déjà de pertes, notamment que ce soit dans les cultures encadrées, style maïs, squash et pommes de terre, mais aussi dans le maraîchage où le marché reste très étroit, quoi. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où on est en installation des institutions. C'était d'être là et de répondre un petit peu à leurs problématiques et leur dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont en place pour aller vers eux, mais surtout derrière, de changer cette méthode, notamment c'était à l'initiative de la Province Sud. Donc le but, c'est de mettre tous les acteurs principaux autour de la table pour qu'on arrive à créer une méthode de la graine à l'assiette où aujourd'hui, on doit faire des efforts, notamment au niveau des producteurs, pour que demain, on arrive à produire et aussi à rendre rentable cette agriculture calédonienne.
Et d'autres réunions sont prévues pour continuer ce travail.
Il est 11h37, la première pause de ce journal, et on se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre enfant part étudier en métropole ? La Province Sud l'accueille à Paris les 16, 18 ou 21 août. Le logement, les repas, le transport et les ateliers pratiques, tout est pris en charge, qu'il soit boursier ou pas. Remplissez le formulaire d'inscription avant le vendredi 31 juillet sur province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop ! Ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
À la fin de procès en appel pour 6 membres de Calédonie Ensemble, dont Philippe Gomès et Philippe Michel, au terme de 3 jours d'audience, la Cour d'appel a mis en délibéré hier soir l'affaire des soupçons d'emploi fictif de 40 collaborateurs de cabinet wallisien et futunien de 2014 à 2018. Un procès au cours duquel l'avocat général a livré un réquisitoire très dur à l'encontre de Philippe Gomès et Philippe Michel, qui l'accuse d'avoir instrumentalisé la communauté wallisienne et futunienne par la corruption, Léana Colombo.
Oui, un réquisitoire sans concession qui a conduit le ministère public à réclamer de nouveau une condamnation des anciens élus pour détournement de fonds publics. Il les accuse d'avoir détourné et démultiplié un système quand Calédonie Ensemble était à la tête de la Province Sud en recrutant des collaborateurs dans la communauté wallisienne et futunienne uniquement à des fins électoralistes, et il leur reproche d'avoir corrompu le système démocratique. Le ministère public a requis la confirmation des décisions prises en première instance. Philippe Gomès et Philippe Michel avaient respectivement été condamnés à 4 ans et 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Dans ses plaidoiries, la défense a fait valoir que les collaborateurs étaient par nature politiques et elle a réclamé la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 22 septembre.
Les faits divers et un véhicule de pompe funèbre nord vandalisé. Les faits se sont passés hier soir vers 18h30, Nicolas.
Oui, ce corbillard était stationné à la résidence Le Serra à Nouville quand il a été volontairement dégradé. Un acte incompréhensible pour Thierry Bastien. À 23 ans, il a fondé et gère les pompes funèbres nord à Poindimier.
On avait prévu un rapatriement de corps pour aujourd'hui. Et donc aux alentours de 18h30, mon collaborateur il m'a appelé pour me dire que le véhicule avait été vandalisé. On a la vitre latérale gauche qui est brisée, donc à l'arrière de la porte chauffeur. C'est un sacré caillou quand même, mais je pense que la personne a voulu voler et puis quand il a vu qu'il y avait un cercle dedans, il a pris peur. Enfin, j'essaie de comprendre comment on peut faire ça, quoi. C'est inhumain, quoi. Ça relève de la folie. Nous, on comprend pas. Là, ce matin, aux premières heures, on a essayé d'aller faire des devis pour pouvoir changer ça au plus vite. Pour le moment, on a réussi à trouver une solution de fortune avec du scotch pour pouvoir procéder au rapatriement du corps, quoi. Franchement, aujourd'hui, on est découragé, hein, avec la conjoncture actuelle, tout ce qui se passe. On essaie de s'en sortir comme on peut. J'ai 23 ans, j'ai lancé ma société de pompes funèbres depuis septembre 2024 sur Pointe-d'Igné. On nous a toujours dit que nous, c'est nous les jeunes, c'est nous l'avenir, mais quand ça nous arrive à nous, on ne comprend pas quoi.
Une plainte sera déposée dans les prochaines heures. Les pompes funèbres Nord qui ont communiqué sur leur page Facebook pour dénoncer cet acte de vandalisme. Ce véhicule n'est pas un simple utilitaire, c'est un outil indispensable qui nous permet d'accomplir notre mission avec respect, dignité et professionnalisme auprès des familles endeuillées dans les moments les plus difficiles de leur vie. Fin de citation.
Et puis le syndicat Alliance Police salue le sang-froid des policiers municipaux. Un agent a été menacé en effet par un individu armé d'un couteau hier matin.
Oui, ils sont intervenus vers 11h, rue Clémenceau, en centre-ville de Nouméa pour mettre fin à une bagarre. Après avoir réussi à séparer les deux individus, l'un d'entre eux a sorti un couteau de table de sa poche arrière en menaçant un agent. Il a finalement pris la fuite à pied, laissé et abandonné son couteau avant d'être interpellé. Le syndicat Alliance qui salue donc le sang-froid des policiers municipaux qui subissent d'importantes agressions.
Et puis à Boulou-Paris, une enquête a été ouverte. Vers 3h du matin, une voiture a été retrouvée en feu au niveau du pont Eiffel de la Wengui. Les pompiers et les gendarmes sont intervenus. L'enquête devra déterminer les circonstances de l'incendie, combien de personnes se trouvaient à bord et si la voiture était ou non volée. Structurer la filière bois sur le territoire, c'est l'objectif du projet Interbois NC, un regroupement de professionnels qui souhaitent créer un cluster. Aujourd'hui, une visite était organisée sur le site de l'entreprise Enbois NC qui utilise du bois local pour fabriquer des palettes et emballages avec une originalité, l'optimisation des déchets grâce à la biomasse. C'est ce genre d'innovation que souhaite mettre en avant la filière. Emma Doka qui est coordinatrice du projet Interbois.
C'est l'objectif de l'interprofession, c'est de mettre en relation les différents acteurs, les différents maillons de la filière bois et en fait d'optimiser toute notre filière, c'est-à-dire en évitant par exemple de faire en doublon les mêmes études, les mêmes recherches quand en fait on a les mêmes besoins et qu'on pourrait tout fédérer au sein d'une structure. Et le site de l'entreprise en bois, en plus, il a un double intérêt, c'est que depuis peu, il a également trouvé un moyen de valoriser tout ce qu'on appelle les coproduits, les connexes du bois, donc tous les déchets entre guillemets, en énergie pour répondre à ses besoins et donc vraiment optimiser la chaîne de valeur du bois au sein de son entreprise. Mais du coup, s'il y a une structure qui peut aller chercher les acteurs de l'énergie pour leur dire « Bonjour, on a une super ressource renouvelable locale, comment on pourrait travailler avec vous pour l'optimiser ?» Eh bien, on peut les rallier du coup à la démarche ou en tout cas leur partager les connaissances que la filière acquiert au fur et à mesure de son histoire.
Une visite de chantier à Dumbéa à laquelle ont également assisté deux représentants de Fibois France, une association spécialisée dans l'accompagnement et le soutien aux professionnels de la filière bois et qui va accompagner le développement de la filière en Nouvelle-Calédonie. Partons maintenant dans l'univers des collectionneurs. Le 26e Salon des collectionneurs s'est ouvert ce matin à Nouméa. Jusqu'à dimanche, 34 stands seront présents dans la salle d'honneur de la mairie pour vendre, échanger une partie de leur collection, timbres, pièces de monnaie, jouets anciens, mais aussi livres, vinyles et bien d'autres choses. Parmi les exposants, Jimmy Janet, un habitué du salon.
J'expose mes doubles, donc ma collection elle est chez moi et en fait je veux partager un peu ce que j'ai avec d'autres gens et leur proposer, voilà. Je vends des livres, des BD, des cartes maritimes des années 80, des comics de super-héros. Je suis là tous les ans, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde cette année, des curieux comme des collectionneurs. C'est ce que j'attends et avec impatience.
Une 26e édition organisée par le groupement philatélique Le Cagou en partenariat avec l'OPT avec une thématique, l'école d'antan. De quoi réjouir les visiteurs ce matin?
Je suis à la recherche de vieux livres, surtout sur les histoires de familles calédoniennes. Je fais une collection en fait pour mes enfants. En fait, je lisais pas vraiment les livres de l'histoire de la Calédonie ou autrefois. Et puis là, je m'y intéresse et je trouve ça tellement génial que j'essaye d'avoir tout ce qui se trouve dans la collection de certains auteurs pour mes enfants.
Je suis venue juste pour regarder les collections. Bon, je suis collectionneuse d'escargots, de toutes les matières, et je suis venue faire un petit tour.
Je regarde surtout, mais moi j'ai déjà. Moi je suis dans les mobilettes. C'est notre passion, je regarde. Et puis, comme tout passionné, on s'intéresse à ce que l'autre fait.
Étant jeune, j'aimais bien faire des collections, des miniatures de parfums, des autocollants. Donc là, je suis venue par curiosité, et puis peut-être pour avoir un coup de cœur.
Le salon des collectionneurs a donc ouvert ses portes à 8h ce matin et a rapidement accueilli un grand nombre de visiteurs, ce qui réjouit Daniel Mirou, qui est co-organisateur de cet événement.
C'est vrai que cette 26e édition donc, a vu le jour et a débuté à 8h de ce matin. Donc on est un peu satisfait par rapport à l'affluence qu'il y a actuellement. Bon, il faut que ça soit égal pendant les 3 jours. Bon, a priori, le temps devrait être correct. Donc pas de pluie comme la semaine dernière, ce qui aurait été catastrophique. Donc voilà un salon, on va voir ce qu'il va donner. On n'en est qu'au début, aux primeurs pour le moment. J'espère que ce sera un bon cru, la 26e édition.
Le salon des collectionneurs se poursuit jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite et notez la présence sur place comme chaque année d'un stand Radio Rythme Bleu. Tout le week-end, vous pourrez échanger, rencontrer les équipes, mais vous pourrez aussi acheter, pourquoi pas, des vinyles, des cassettes ou des cartes postales d'antan. Il est 11h et bientôt 46 minutes. Une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Vous êtes un aidant, le sujet des donations vous intéresse ? Le Lions Club et le CCAS de Nouméa vous invitent ce lundi 27 juillet à 17h30 pour le prochain rendez-vous des aidants dans la salle d'honneur de la mairie. Maître Stéphanie Lobreau animera cette conférence dédiée aux donations. Entrée libre pour tous.
Ce mois-ci, chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez d'un kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1190 francs seulement. Offre valable dans vos 4 magasins, Ansvata, Apogoti, Faubourg et Magenta, dans la limite des stocks disponibles. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos. Profitez-en. DCSM réouvre le samedi matin de 8h à 11h.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité en métropole avec Jean-François Bodin.
Et l'incendie qui sévit depuis 2 jours en Gironde est hors de contrôle. Il menace directement la ville très touristique de Lesches-Cap-Ferré, particulièrement fréquentée dans cette période estivale. Le reportage de Wilfried de Villers.
C'était le scénario redouté par les pompiers. Plus de 700 d'entre eux luttent toujours ce soir contre le feu qui s'est propagé dans la commune, détruisant plusieurs maisons. Un pompier, justement, a été blessé tout à l'heure lors de l'explosion d'une bouteille de gaz. Il a été évacué en urgence à l'hôpital. Les habitants des quartiers les plus proches du feu ainsi que de nombreux vacanciers ont été évacués eux aussi. Les autres sont appelés à rester confinés. Dans le ciel, d'épais nuages de fumée grise et dans l'air, une forte odeur de brûlé. Alors que je me trouve à plus de 20 km de Lesches-Cap-Ferré, j'évoquais toutes ces personnes évacuées en urgence ces dernières heures. 20 000 au total dans cette région très touristique en été. Près de 200 de ces personnes sont accueillies ici à Biganos, dans un centre d'hébergement d'urgence ouvert la nuit dernière. Georges Bonnet est l'adjoint au maire de la ville.
Nous sommes opérationnels très rapidement parce qu'on est toujours sur le qui-vive. Il a fait très sec depuis 2 mois, il n'a pas tombé une goutte d'eau. Pour les jours à venir, on va essayer de tenir au maximum. L'inconvénient dans cette situation, les gens qui sont partis hier au soir, ils sont partis vite, mais ils ont laissé les affaires sur place en espérant revenir le plus rapidement possible pour les récupérer. Est-ce qu'ils vont pouvoir ?
Ce ne sera pas avant dimanche au plus tôt, dit la préfecture. Alors il faut attendre, comme cette famille allemande qui me racontait être partie précipitamment hier, laissant derrière elle tout son matériel de camping, la plupart de ses affaires. Demain, la journée s'annonce périlleuse. Les pompiers s'attendent à des rafales de vent de plus de 70 km/h et à un nouveau pic de chaleur.
Dans le Var aussi, les pompiers restent fortement mobilisés. En 3 jours, 2700 hectares ont été détruits et une centaine de foyers s'est réactivé en 24 heures. Des incendies liés évidemment à la vague de canicule qui a touché la métropole dès la fin juin et qui entraîne aussi une sécheresse. Des restrictions d'utilisation de l'eau sont en vigueur dans tous les départements. Mais pour certains agriculteurs, pas question de les respecter à cette période de l'année. José Pérez est le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
Je le dis, je le redis. Ce qui reste à sauver, il faut qu'on arrive à le sauver. On arrive presque au bout là de nos productions. Si près du but, ça serait dommage de s'arrêter à cause d'une interdiction. Quoi. On ne peut pas arrêter, c'est pas possible.
Un appel à la désobéissance civile qui n'est pas partagée par tout le monde agricole. Écoutez Nicolas Batz, c'est le secrétaire général du syndicat des jeunes agriculteurs basé dans les Landes.
Si on continue sur le rythme aujourd'hui, on déstocke l'eau, on ne tiendrait qu'avec ces débitages qu'au 15 août. Le but, c'est de diluer les prélèvements sur 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines et de conserver de l'eau pour tout le monde parce qu'on ne sait pas encore comment ça sera août et septembre. Quoi.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Thomas, ce jeune homme tué à l'arme blanche lors d'une fête à Crépol dans la Drôme en novembre 2023. La juge d'instruction en charge du dossier vient de requalifier les faits. L'instruction a montré en effet que Thomas a été visé par une bande de jeunes parce qu'il était blanc et français. Elle a donc retenu la circonstance aggravante de racisme à l'encontre des prévenus. Une requalification plutôt rare, souligne maître François-Xavier Causan, avocat de l'association Innocence en danger et des parties civiles.
C'est pas quelque chose de courant, ça c'est une certitude. C'est une qualification qui colle à la réalité factuelle de ce dossier. Dès le début de cette affaire, indépendamment de toute agitation médiatique, il y avait des pistes qui laissaient penser qu'effectivement, c'était une des motivations qui avait conduit au drame. Donc aujourd'hui, finalement, le choix de cette nouvelle qualification n'est ni plus ni moins que l'écho d'une réalité qui s'est imposée avec le temps.
Et les deux parties ont un mois pour faire part de leurs observations. On verra ensuite si le parquet retient la qualification de racisme. La politique migratoire, mais aussi la dérive des finances publiques. Comment en est-on arrivé là ? L'Institut Thomas More vient de rendre un rapport dans lequel il liste les 50 mesures qui ont coulé la France parce qu'elles étaient contraires à ses intérêts. À un an de la présidentielle, l'initiative n'est pas anodine. Alexis de La Fontaine.
Abrogation de la loi Perfit en 83 qui durcissait les contrôles d'identité, suppression des peines planchers en 94, loi Taubira de 2014, qualifiée d'échec par le gouvernement quelques années plus tard, ou enfin l'invention du principe de fraternité par le Conseil constitutionnel en 2018, imposant une nouvelle politique migratoire. Les exemples ne manquent pas, mais pour le rapporteur Tariq Dali, invité d'Europe 1 Matin, une décision reste plus néfaste que les autres.
En août 1981, on a décidé d'un seul coup de régulariser des travailleurs clandestins. Mmh. On a institutionnalisé des gens qui étaient dans l'illégalité. Avant, vous aviez eu une mesure qui avait été prise 5 ans plus tôt, c'était le regroupement familial, c'était en 1976.
Un rapport de plus d'une centaine de pages qui se présente à lui-même comme le premier volet d'un travail plus large. Une seconde étude sortira à l'automne consacrée aux mesures de redressement. L'objectif est clair, peser dans le débat présidentiel de 2027 en espérant voir les candidats reprendre leurs propositions.
11h et bientôt 52 minutes, la dernière pause de ce journal avant de voir la page sport. Nous parlerons du Tour de France mais aussi des Jeux du Pacifique. C'est dans un an quasiment jour pour jour et ensuite ce sera le magazine Transparence. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Sopema vous dit enfin welcome ! Et oui, la réouverture c'est maintenant et on vous attend ! Retrouvez vos enseignes Bricomarché, Atlas, Cave Home et JTM dans un nouvel espace de 5000 m² entièrement dédié à l'aménagement, la décoration, les travaux et l'entretien de votre maison. Et pour l'occasion, Sopema vous gâte. Rendez-vous en magasin pour le grand jeu de la réouverture et tentez de gagner de nombreux cadeaux, dont un frigo Fischer & Paykel d'une valeur de 459 900 francs. Toute l'équipe de Sopema vous attend. 46 rue Fernand Forest, à Ducos. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire condition en magasin.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Et on va évidemment ouvrir cette page de sport avec le cyclisme et le Tour de France.
Suivez le Tour de France avec Mazda. Besoin d'une nouvelle voiture ? Avec Mazda, trouvez la voiture adaptée à vos besoins. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda. Passez nous voir au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébig, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Le retour des cols et des sommets de la montagne sur cette 113e édition de la Grande Boucle. Le peloton est dans les Alpes depuis la nuit dernière. Et c'est Richard Carapaz qui a remporté cette 18e étape à Orcières-Merlette, Léo Fichou.
L'Équatorien s'est imposé en solitaire alors qu'ils étaient 6 dans l'échappée finale. Richard Carapaz a placé une attaque tranchante à 3,5 km du sommet. Attaque qui a laissé sur place le Suisse Mauro Schmidt, deuxième de l'étape, l'Américain Matteo Jorgensen, troisième, et le Français Valentin Paré-Peintre, quatrième. Un succès qui propulse le coureur de la team EF Education au 10e rang du général. Mais le plus dur reste à venir. Deux étapes de montagne avec deux arrivées au sommet à l'Alpe d'Huez. Le top 10 justement pourrait être chamboulé. Et avant ce week-end décisif, Paul Sexas s'est confié sur son état.
Je me sens bien. Pour une troisième semaine, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que c'est incroyable. Après, voilà, j'espère surtout de pas tomber dans la montée parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectateurs et on a vu que c'était quand même assez dangereux. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer surtout. Et après, forcément, c'est les jambes qui vont parler.
Au général, le jeune Français est quatrième, un peu plus de 7 minutes du leader, Tadej Pogacar. Le Slovène possède toujours 4 minutes 32 sur Remco Evenepoel, 6 minutes 51 sur Isaac Del Toro. Deux autres tricolores sont dans le top 10, Lenny Martinez 7e, Jordan Gega 9e.
Et il ne faudra pas manquer la 19e étape cette nuit pour nous, dont le départ sera donné à 23h avec au programme 128 km de course entre Gap et l'Alpe d'Huez. Le sport en Calédonie et le compte à rebours est lancé. Les Jeux du Pacifique à Tahiti, c'est dans un an. Un rendez-vous important pour les athlètes calédoniens dont nous avons parlé avec le président du CTOS, Christophe Dabin, qui était notre invité à 7h30. La préparation est lancée, nous a-t-il dit.
Il y a des choix qui ont été faits. La chance qu'il y a par rapport à tous les autres Jeux, c'est que la Nouvelle-Calédonie pourra être présente dans les 24 disciplines qui seront présentes aux Jeux. C'est la première fois, donc c'est quelque chose d'important. Il y avait juste un petit peu un doute sur la lutte, mais on sera présent pour la lutte. Et là, dans les effectifs que l'on a pu faire aujourd'hui, par rapport à ces disciplines, par rapport à la performance et à l'excellence de nos athlètes, on a inscrit 300 athlètes sur l'ensemble des disciplines. Et après, on verra par rapport à chaque discipline, par rapport au niveau de performance, pour savoir si on va bien à 300 on va un peu moins.
Christophe Dabin a récemment rencontré les sportifs calédoniens qui évoluent en métropole et demain, les athlètes calédoniens seront regroupés au 6 de Kuutio. Il s'agit de sonner la mobilisation.
Le challenge est à relever aujourd'hui et encore peut-être plus difficilement que les Jeux précédents parce que là, on a Tahiti qui organise les Jeux, qui n'a jamais gagné les Jeux, qui a mis le paquet, que ce soit dans la préparation, dans le financement pour la préparation de ces Jeux. Et c'est vrai que nous, on a eu un petit arrêt pendant plusieurs mois. Donc aujourd'hui, c'est pour montrer aussi que le sport a le moyen véritablement de faire avancer les choses, de faire ce vivre ensemble que tout le monde recherche et surtout montrer aujourd'hui que quel que soit ce qui a pu arriver chez nous, on a toujours un niveau sportif excellent, on a des athlètes qui ont un fort potentiel et qui ont des performances. Donc aujourd'hui, c'est relever le défi de gagner ces Jeux, mais aussi montrer la force de ce mouvement sportif calédonien.
Et lors de son récent déplacement en métropole, Christophe Dabin a également rencontré les différentes fédérations sportives en 2032. Les Jeux Olympiques auront en effet lieu à Brisbane et la Calédonie pourrait servir de base arrière d'entraînement et d'acclimatation, mais ce travail doit se préparer dès maintenant.
Aujourd'hui, c'est ce travail que l'on fait, de rencontrer les fédérations pour voir avec elles comment on peut mettre en place ces choses.
Pour aussi accueillir des équipes, il faut un certain nombre d'équipements sportifs en bon état d'usage. Est-ce que de ce point-là, ça pourrait amener aussi à la réflexion, voire à l'engagement financier des instances nationales pour les structures sportives calédoniennes?
Tout à fait, mais il faut d'abord savoir un petit peu quelles sont les fédérations qui sont intéressées, en fonction des fédérations, voir les infrastructures dont on a besoin. Et ensuite, c'est déjà ce travail qu'on a déjà lancé, donc de voir quelles sont les infrastructures qui pourraient être rénovées et de voir aussi, je veux dire, quelles infrastructures pourraient être construites. Moi, je sais que le président de la Fédération française de tennis est extrêmement intéressé pour venir. Il avait envisagé de dire comment on peut construire une salle. Donc, on sait qu'il y a de fortes opportunités et ces opportunités, il ne faut surtout pas les louper. On dit 2032, c'est dans 6 ans, mais pour des infrastructures, c'est maintenant qu'il faut travailler dessus.
Le président du CTOS, Christophe Dabin, qui était donc notre invité ce matin, et cette interview est à retrouver évidemment sur notre site internet. Et puis, terminons avec du golf. Fin de l'aventure en métropole pour Martin Rouveyrolle. Le licencié de Tinas est incliné en 8e de finale du championnat de France des moins de 12 ans. Défaite au 20e trou face au Corse Louis Palmier. Écoutez, Julien Fauré, c'est l'entraîneur de Martin au golf de Tinas.
Malheureusement, son adversaire pour lui a fait un birdie qui le prive de passer à l'étape suivante et des quarts de finale. C'est un compétiteur. Et donc forcément qu'il était déçu d'être sorti. Ça reste malgré tout une bonne performance pour lui et pour sa progression, sa formation, une bonne expérience. Il est dans les 15 meilleurs Français, c'est son niveau actuel, et il l'a confirmé, donc ça, on peut que le féliciter. Ouais. Martin, ça fait déjà quelques années qu'il se confronte à plus grand, et à chaque année, il a progressé en se jaugeant par rapport à des joueurs bien meilleurs que lui, et en intégrant des groupes au sein de l'école de golf, notamment, où il était en avance systématiquement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un gros caractère, parce qu'il se laisse pas faire également, même quand c'est des grands. C'est ce qui aussi le fait progresser un peu plus vite que les autres.
Martin Rouveyrolle s'est donc incliné en 8e de finale des championnats de France des moins de 12 ans. La veille, Tiphaine Dagorne-Leca du golf de la Wengi s'était elle aussi inclinée au 20e trou en 16e de finale. Il est 11h59.